France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Nouvelle étape dans la Somme avec l'histoire d'un jeune ingénieur picard qui, de retour d'un voyage en Asie, va dessiner un programme de maison bois bioclimatique, pas kilométrique. Ainsi est née la maison de cèdre à Amiens, avec beaucoup d'emplois à la clé. Ensuite, nous ferons un tour de France des initiatives citoyennes qui se traduisent par la création de monnaies locales, de marchés paysans ou de cafés associatifs. Il s'agira en l'occurrence de feuilleter un dossier enquête du dernier numéro du magazine Village.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Marion Mounier, bonjour.
Bonjour.
Marion, vous travaillez donc dans une maison de cèdre?
Oui, tout à fait. Sur Amiens, dans la zone industrielle.
Ça donne quoi? Ça donne une grande ouverture, une immense lumière, une chaleur du bois, une qualité et un confort d'habitat ou de travail?
Tout à fait. En fait, nos maisons sont panoramiques. Comme elles sont rondes, enfin les gens ont l'habitude de dire qu'elles sont rondes, en fait, techniquement, elles sont polygonales. Donc on a plein de murs. Plus on va augmenter le nombre de murs, plus on augmentera la surface au sol. Et notre grand concept, c'est de mettre une grande baie vitrée plutôt au sud pour gagner en luminosité et les énergies gratuites du soleil.
Je suis allé voir le site, je conseille à tout le monde par curiosité, et puis après peut-être par intérêt, maisondecèdre.fr, avec des traits d'union entre chaque mot. Vous allez voir, d'abord, les réalisations sont belles, donc c'est des maisons polygonales qui donnent un point de vue sur l'environnement assez exceptionnel. Elles sont presque, je vais dire, chic.
Oui, tout à fait. Elles sont chic, on s'efforce. Alors, effectivement, comme vous le dites, on fait le plus de maisons polygonales. Et puis, par la suite, on s'est aussi adapté aux demandes. Et on fait aussi des maisons demi-rondes et quart de ronde, donc des maisons beaucoup plus contemporaines. Notre patron a voyagé et s'est inspiré de l'habitat traditionnel asiatique. Et il en a fait des maisons de luxe, on va dire, par rapport à cet habitat typique asiatique.
Ouais, qui dit luxe, dit peu accessible et peu abordable par tout le monde.
Non, enfin, on va dire c'est du moyen haut de gamme, effectivement, mais on peut tout à fait avoir une maison de cèdre, tout compris. Déjà, on propose deux solutions. Pour ceux qui le souhaitent, en tant que bricoleur ou expérimenté du bâtiment, on va faire ce qu'on appelle des clos couverts. On va créer toute la coquille de la maison, isolée, en fibre de bois ou de cellulose, avec les menuiseries, le test d'étanchéité. Donc là, notre fourchette, c'est de 1000 euros à 1400 euros le mètre carré sur la zone d'Amiens. Ou en clé en main, juste prêt à décorer, vous n'avez plus qu'à mettre votre petite peinture. Là, vous serez à 1500 jusqu'à 2500, toujours TTC.
Alors, ces maisons de cèdre sont nées d'un voyage et deux voyages en Asie, comme vous le disiez, de votre patron. C'était un jeune ingénieur picard, Nicolas Bécard, qui a flashé sur ces maisons rondes et il les a reproduits avec ses moyens, avec des soutiens financiers aujourd'hui, puisqu'il y a des bâtiments qui se créent dans le cadre des appels à projets bois construction avec la région. Vous avez créé le premier bâtiment collectif de ce genre. On gagne en économie de dépenses énergétiques, ça c'est évident. Elles sont toutes certifiées HQE.
Alors, HQE, déjà, ça veut dire haute qualité environnementale.
Oui.
Elles peuvent toutes l'être. C'est-à-dire que nous avons voulu pouvoir répondre à tout ce cahier des charges de la certification NFHQE. Et si le porteur de projet veut la faire certifier, il n'y aura aucun souci.
Alors Marion, il y a la conception enfin des maisons. D'abord le cèdre, ce très beau bois qui s'adapte bien en toute situation, parfait isolant, formidable. Sauf que en France, il n'existe principalement que dans le sud de la France.
Tout à fait.
Alors vous allez le chercher où ?
Il est d'un port européen. Alors, je vous dirais que ça vient de plusieurs forêts gérées durablement européennes. Effectivement, ça vient pas de France. Ensuite, pourquoi le cèdre ? Parce que notre patron a un amour de ce bois putrescible, puis la majestueusité de cet arbre, tout ça. toutes les maisons de cèdre, au départ, il y a 20 ans, étaient en bardage, donc pas l'ossature de la maison, mais bien tout le bardage de la maison était en cèdre. Seulement, c'est moins accessible comme bois. Donc, aujourd'hui, on le fait aussi en fonction des revenus du porteur de projet ou même de ses choix, de ses goûts, tout simplement. Donc, toutes les maisons ne sont pas ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, en raie de cédar.
Et dernière chose, Marion, maison de cèdre, c'est combien de salariés aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on approche les 70 sur 3 agences. Là, je vous parlais particulièrement d'Amiens parce que j'y travaille. Il y a toute la direction, notre atelier de production. Donc, c'est bien des maisons picardes qui sont construites ici. Et on a 3 maisons témoins. Donc, pareil, à côté de l'atelier de production à Amiens, une à Angers et une à Aix-les-Bains.
Le site, hein, c'est maison-cèdre.fr. Il y a une page Facebook aussi. Et voilà, vous pourrez découvrir ces réalisations de maisons en bois bioclimatique. Merci Marion.
Merci à vous Philippe.
France Inter, carnet de campagne.
J'aime beaucoup l'histoire de la chapelle théâtre d'Amiens. Au départ, c'est un lieu d'action sociale, d'hébergement, d'insertion réalisé par une association amiénoise, Lilo. On apprécie aussi l'histoire car elle débute par l'invitation lancée à une compagnie de théâtre de s'installer dans une chapelle désacralisée, propriété de Lilo. La première compagnie installée est la compagnie du Berger, qui a la bonne idée aussi ensuite d'inviter 6 autres compagnies à prendre place dans cet improbable espace de travail. On mutualise les moyens techniques, administratifs et artistiques et le résultat est un navire de pierre échoué dans le quartier Saint-Leu d'Amiens qui donne le temps et l'espace aux compagnies de travailler sans pression et sans crainte de l'échec, puisque vous le savez, à plusieurs. On va plus loin, dernier palier, restructurer la chapelle pour qu'elle s'adapte aux besoins des résidences théâtrales et des spectacles. C'est vraiment très réussi. Ils sont un tout petit peu fous dans cette chapelle théâtre d'Amiens. Vous allez trouver le lien avec cette chapelle théâtre, avec la compagnie du Berger, à nos pages d'émission. Sylvie Le Calvez, bonjour.
Bonjour Philippe.
Sylvie, directrice de publication du magazine Village depuis France Bleu Normandie Caen, à l'occasion de la parution depuis quelques semaines du magazine d'automne, le numéro 141. J'ai envie de vous appeler citoyenne, on le dit beaucoup maintenant. Citoyenne, vous êtes engagée ?
Oui, rien que Village, hein, c'est de l'engagement dans ce magazine depuis, oh, je ne vais pas dire le nombre d'années parce que ça va vieillir, mais oui, et l'engagement, un grand dossier hein, de ce magazine mené par notre collaboratrice journaliste Emmanuelle Maillard, ça nous tenait à cœur déjà parce qu'il y avait une actualité, hein, le congrès d'Association des maires ruraux de France sur ce thème, pour effectivement l'implication dans les municipalités, au cœur des villages, hein, puisque on se dit, mais maintenant que tout est à des échelons XXL pour les communautés de communes, qui va encore se mobiliser au niveau de petites communes ? Donc il y a cet engagement municipal, soit parce qu'on veut être soi-même élu, hein, parce que c'est le premier échelon de la démocratie, soit parce qu'on est citoyen et on veut travailler en proximité avec les élus, puis c'est aussi tout l'engagement, bien sûr, dans les associations, qu'elles soient humanitaires, sociales, locales, donc on voulait voir quels étaient les moteurs de l'engagement. Et on en a trouvé plein, des gens engagés, pour qui, finalement, la vie retrouve un sens. Le fait d'être en réseau, d'être connecté aux autres, eh bien, ça apporte plein de choses, de la convivialité, des compétences, de l'enrichissement. Enfin, on a trouvé des gens passionnés et passionnants.
Je vais émettre une réserve, si vous permettez, Sylvie, parce que vous parlez, à juste titre, du mouvement des communes et des citoyens, qui consiste à, via les élus, impliquer les habitants davantage dans la vie municipale. Et là, je vois tout de suite la préparation très intéressée aux prochaines élections municipales de 2020.
Oui, mais tout à fait. En se disant, effectivement, il y a une autre façon d'agir dans son village. Et est-ce que finalement, ce premier échelon que sont les petites communes, n'a pas un sens encore plus utile aujourd'hui qu'hier, et comment faire en sorte que chacun s'y implique, soit directement effectivement pour les élections municipales, ça va sans dire, mais soit aux côtés des équipes. Et puis on a vu des exemples incroyables, alors avec des choses qui marchent, on n'en a pas vu tant que ça, mais je pense que ce sont des bons exemples à suivre. Le problème, c'est que tout ce qu'on a vu comme démarche d'engagement, si c'est juste pour faire tampon sur un système qui est de plus en plus individualiste, de plus en plus à l'échelle macro et où chacun perd un peu le sens de ce qui se passe et est en train de se dire oh là là mais c'est difficile aujourd'hui, tout s'effondre, les problèmes de climat, la pauvreté, la surpopulation, etc., l'effondrement général, on peut plus rien faire, faut qu'on baisse les bras, de toute façon c'est foutu. Et ce dossier s'inscrit un peu en complètement même en faux par rapport à ça, en disant si vraiment tout ça peut prendre de l'ampleur et pas juste être un amortissement pour que ça, on aille moins vite dans le mur, mais vraiment prendre de l'ampleur, si ça peut continuer de donner envie pour que ça se démultiplie, ben c'est un gros pari, mais c'est là-dessus qu'il faut tenir si on veut garder un peu de joie, quoi.
Alors je continue quand même dans l'embarras. Vous le prouvez dans tous les numéros du magazine Village. On le propose aussi et on le présente chaque jour dans les carnets de campagne. Ce sont des collectifs ou des particuliers qui décident de prendre en charge leur vie et qui apportent des solutions à des problèmes quotidiens qu'ils peuvent rencontrer. Et vous donnez de multiples exemples à travers les recycleries, les repères cafés, les cafés associatifs, les lieux communs, les monnaies locales, etc., etc. L'intervention des élus m'embarrasse.
Oui, je pense que si les élus sont trop présents au moment des projets, c'est pas une bonne idée. Je pense qu'il faut laisser les habitants faire, leur faire confiance. Enfin, surtout pour ce que je pourrais appeler les plus grands élus, hein, parce que quand on est sincèrement, quand on est conseiller municipal d'une commune de 500 habitants, on est avant tout le citoyen de son village. Enfin, c'est vraiment un échelon.
Ça, c'est évident.
Voilà, il faut pas tout mélanger non plus, quoi. Hein. Mais effectivement, je pense que pour les grands élus, plus ils savent écouter, laisser la place aussi quand c'est l'heure de laisser la place et faire confiance, et que les initiatives sont menées par des habitants qui sont sur le terrain, qui voient où sont les besoins, que ce soit en matière environnementale, social ou autre, que ce soit effectivement une recyclerie, un marché de producteurs, une association pour des réfugiés, eh bien mieux ça fonctionne. Parce que plus on pilote en tant que grand élu pour se faire mousser, moins finalement les gens s'impliquent et moins ils voient le sens et la nécessité, puis moins c'est adapté au territoire sur lequel on vit.
Ouais, l'exemple du marché des habitants, c'est à Saint-Maurice-sur-Dagouard, dans le Rhône. Vous donnez l'exemple de cette commune de 2000 habitants de l'Essonne, les Molières, où on a créer une constitution municipale.
Oui,
c'est incroyable, ça.
Oui, oui, bien sûr, ça n'a pas de valeur juridique en soi, mais c'est quand même un outil pour mettre en avant la place des citoyens, quoi, qui a été faite avec les habitants.
Vous allez avoir une profusion d'exemples à Monnaie Locale, Limousine, Loupé-Loup, la Smala à Saint-Julien-en-Born, dans les Landes, dont on avait parlé. Citoyens, engagez-vous. Ça, c'est un des dossiers intéressants du dernier numéro d'automne, numéro 141 du magazine Village, villagemagazine.fr. Merci, citoyenne.
Merci beaucoup, Philippe. À bientôt.